MIPIM 2021, Time to Reconnect. Le premier événement permettant à la communauté internationale de l'immobilier et aux investisseurs de se retrouver et d'échanger à nouveau. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Imo.
Salut les amis, merci d'être avec nous. Vous avez été avec nous toute la journée sous un soleil de plomb. Ici, remarquez, on ne va pas bouder notre plaisir, on est plutôt bien installé. Espace Riviera, face à la mer. Voilà un symbolique, parce que c'est le fait de se retrouver aussi. Hein. C'est un grand rendez-vous. On a tous besoin de se retrouver, c'est très bien, parce que bon, les visios, c'est bien. Mais de temps en temps, se retrouver, ben c'est mieux. Voilà, avoir un contact les uns avec les autres. On attendra quelques temps avant de se faire des câlins, d'ailleurs. Mais bon, déjà, le fait de se retrouver, c'est déjà pas mal avec la planète immobilière ici sur le plateau. Avec notre amie Ingrid Napi qui est sur le plateau. Comment ça va, Ingrid ?
Ça va très bien.
Bien.
Ça va très bien, Sylvain.
Voilà, on va parler de vous aujourd'hui puisque cette table ronde vous est consacrée. Ingrid, professeure titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC. Et on va parler des cahiers. 8e édition, c'est bien ça, cahier numéro 8.
C'est bien ça. Une 8e édition en français comme en anglais de plus de 180 pages. De 21 regards croisés, d'universitaires, d'investisseurs, de promoteurs, d'aménageurs, d'architectes, que sais-je encore.
Alors, en tout cas, pour en parler justement du bureau et des nouveaux usages aussi, parce que c'est aussi de ça dont on va parler, avec aussi le recul qu'il convient, on va en parler avec Pierre Yves, qui est directeur général de Paris La Défense.
C'est ça, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Ça va, vous n'êtes pas trop chaud là ?
Non, ça va, on a une douce ombre, une douce brise de début d'automne, là, c'est parfait.
Voilà, parce que moi, j'ai pas pu résister. Hein. La cravate, je l'ai carrément enlevée.
Mmh. Je viens de Paris, j'étais encore à Paris ce matin, parce qu'à Paris, il faut garder un certain standing. Voilà. Donc, peut-être que demain, je réfléchis.
Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir sur le plateau pour parler de ce sujet. Voilà, bon, alors, elle est incontournable, une grande dame de l'immobilier, quelqu'un que, en plus, j'apprécie tout particulièrement. Je vais pas bouder mon plaisir, je vais le dire aussi. Elle est directrice générale de Gecina, Mecca Brunel est avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir.
Comment ça va, Mecca ?
Bien, bien. Ça fait plaisir de rencontrer les gens. Il fait beau. Il fait meilleur qu'au mois de mars, finalement.
Ah oui, je confirme. 28 degrés. Effectivement, tout à l'heure, on a fait une conférence de presse avec la ministre du Logement qui était sur notre plateau. Il faisait carrément 31 degrés. Donc, c'est un peu compliqué. On ventilait comme nous pouvions. Voilà. En tout cas, on est ravis. Ingrid, 8e édition des cahiers, justement, édition toujours très attendue. Est-ce qu'on peut dire, effectivement, que ce qui est en train de se produire va métamorphoser les quartiers d'affaires ? Ah, alors, vaste question.
Oui, question trop générale pour moi.
Alors,
on va essayer de la réduire. En fait, on assiste bien sûr à une mutation qui est liée au télétravail. La crise sanitaire, c'est une crise qui a mené à un télétravail forcé, subi, contraint, à un télétravail qui va être choisi. Et toute la question, c'est que face à ce télétravail, comment on adapte le lieu de travail ? Donc face au télétravail qui normalement est par définition à domicile, même si on va le faire dans un tiers lieu, ça c'est une autre question, comment va se comporter l'immeuble de bureau ? Comment on va adapter les espaces de travail au bureau par rapport à ceux occasionnés par le télétravail ? Donc il y a deux questions, je dirais. C'est est-ce que le télétravail va se maintenir, quoi qu'on en dise ? Est-ce qu'on est sur ce fantasme, on avait dit, voilà, avec la crise, on va maintenir, on va pouvoir travailler à la campagne. Je me souviens d'être intervenue l'année passée à Bordeaux pour dire, pour répondre à la question, on va travailler à la campagne. Ou le télétravail ne va pas se maintenir, ça c'est également une question. Est-ce que tout le monde peut faire du télétravail ? C'est une autre question que nous, on aborde également dans le cahier. Et quand on viendra au bureau, c'est pour y faire quoi ? Voilà les deux questions fondamentales selon moi. Et bien évidemment, les bureaux étant pour l'instant toujours dans des quartiers d'affaires, pour des raisons d'économie d'échelle, pour des raisons de communication entre les immeubles, on va dire, eh bien la question des quartiers d'affaires se pose également. Va-t-on retourner dans les quartiers d'affaires ? Est-ce que c'est obsolète, comme on a pu le lire ? Ou au contraire, on a plaisir à retourner au bureau et notamment dans les quartiers d'affaires ?
Excellent.
Et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir d'interviewer également dans les cahiers à la fois Pierre-Yves Guis et Mecca Brunel.
Alors, c'est une excellente introduction, surtout qu'en fait, Bruno Le Maire nous en a parlé aussi. Et l'État, maintenant, laisse aux entreprises la possibilité de choisir et d'organiser le télétravail. On sent bien qu'on est en train de basculer dans un univers, on va dire, entre guillemets, post-sanitaire. On n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, hein, quand même, pas non plus exagéré. Pierre-Yves Guis, justement, à l'aune de tout ce qui est en train de se produire, avec toute la violence qui est associée à tout ça, a été assez brutale, bien que le mouvement a été quand même clairement engagé en amont. De votre point de vue, comment vous voyez les choses arriver et comment elles vont pouvoir, effectivement, comme le disait, le rappelait Ingrid Napi, durer peut-être dans le temps? Est-ce que le télétravail va s'installer comme un nouvel usage, durable, et fera partie des nouveaux modes de management des entreprises?
Aujourd'hui, on peut imaginer que la réponse est oui. Pendant longtemps, on est resté prudent sur l'estimation, l'évaluation du recours au télétravail, de l'évolution de l'utilisation des bureaux après la crise. On a quand même des choses qui commencent à se dégager au-delà de la conjoncture pour s'installer, comme vous le disiez, notamment parce que les mesures d'exception sur les injonctions gouvernementales qui imposaient le télétravail sont en train de sauter au fur et à mesure. Et on entre maintenant dans un domaine conventionnel comme l'organisation du travail de tous les jours. Donc on a des choses qui sont en train de s'installer. Ce que ça ne dit pas et ce qui reste à imaginer et à construire, c'est comment ça se traduira s'agissant de la forme de nos villes et en particulier de la forme des quartiers de bureaux. Et puis même de la forme des immeubles de bureaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on continuera de faire, qu'on continuera de chercher dans des immeubles de bureaux, dans des sièges sociaux. Là aussi, on a des intuitions, on a des constats empiriques sur les derniers mois. On voit que les salariés, je le vois à la Défense tous les jours, reviennent au bureau dès qu'on leur donne la possibilité, dès qu'on lève les contraintes sanitaires, dès que les entreprises autorisent le présentiel, les salariés reviennent. On a près de 3/4 des salariés habituels de la Défense qui sont en train de revenir là depuis la fin des vacances. Mais voilà, il reste à construire un futur sur cette base-là et à construire une nouvelle vocation, une nouvelle raison d'être des quartiers d'affaires et des immeubles de bureaux.
Alors, on va revenir justement sur la spécificité de ces quartiers d'affaires qui finalement silotaient quelque part cette urbanité. Où on avait ce quartier d'affaires où on allait travailler, le quartier où on allait finalement avoir du loisir, ou le quartier sur lequel on allait dormir. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement dans ces mêmes quartiers un principe qui... Alors, c'est vrai que ça fait un peu un télo de dire ça, mais une espèce de polycentralité qui se crée avec cette ville du quart d'heure où on trouve finalement un peu toutes les choses. Est-ce que vous, Mika Brunel, dans la façon dont aujourd'hui, vous appréciez ce qui est en train de se produire. Effectivement, même question, ça va durer. Comment est-ce que tout ça modifie les règles de gouvernance et notamment impacte ces fameux quartiers d'affaires qu'on a bien connus, qui étaient très installés dans le paysage?
Alors, plusieurs points. D'abord, on ne peut pas parler des quartiers d'affaires françaises comme on parle des quartiers d'affaires américaines ou autres.
Oui, c'est pas comparable.
Ce n'est pas comparable parce que la France a toujours eu cette mixité d'usage, plus ou moins à la Défense, il y a moins de, à la Défense sur la dalle. Il y a moins de logements, mais on est à proximité de plutôt de Courbevoie, de Nanterre, de Neuilly, de Levallois, etc. Donc nous ne sommes pas dans ces espèces de villes qui champignons, qui sortent au milieu de nulle part et qui sont loin de tout, etc. Maintenant, deuxième constat, la civilisation de l'automobile est derrière nous. C'est-à-dire on est passé, sauf que évidemment, quand il y a eu la crise sanitaire, on a moins pris des transports en commun parce qu'on avait peur et qu'on ne savait pas de quoi, et plus pris de la voiture. Mais néanmoins, cette civilisation de l'automobile qui était que j'habite à un endroit, je travaille à un deuxième endroit, je fais mes courses dans un troisième et les loisirs c'est dans une quatrième, c'est derrière nous et on va vers cette centralité, cette urbanité, cette mixité d'usage. Nous, ça fait longtemps que je le dis, nous avons observé déjà depuis plusieurs années trois tendances lourdes. Mixité, urbanisation autour des hubs de transport, c'est la première tendance. La deuxième, c'est la digitalisation. Et ça, ce n'est pas du tout une crise. C'est une transformation profonde, c'est une métamorphose, pas simplement de telle ou telle ou telle ou telle entreprise, mais de la société en général. Et la troisième, c'est l'urgence climatique. La digitalisation entraîne la suppression des métiers administratifs et du management intermédiaire au bénéfice des métiers de service et à valeur ajoutée. Et d'ailleurs, on a vu ceux qui étaient sur le pont et qui travaillaient tout le temps et qui étaient à l'extérieur et qui prenaient des risques pendant le début du premier confinement, ceux qui étaient les métiers de service, qui étaient partout.
C'est clair.
Je dirais que télétravail ou pas télétravail, la question qu'il faut se poser, c'est la question pas de l'égalité, mais de l'équité. L'équité, c'est-à-dire que l'égalité, c'est tout le monde a droit à la même chose. On va dire, voilà, tout le monde fait X jours de télétravail par semaine, etc. Ça dépend des métiers, ça dépend de la pénibilité, ça dépend de la manière dont on l'exerce, ça dépend de la manière dont c'est organisé. Et il faudra pas qu'on soit inéquitable vis-à-vis d'un certain nombre d'emplois qui ne peuvent pas aller en télétravail. Nos gardiens d'immeubles, nos UFERS managers, ils ne peuvent pas être en télétravail. Ils peuvent pas.
Il y a plein de métiers.
Il y a plein de métiers. Vous savez, je me souviens dessins humoristiques où la femme de ménage, pendant le premier confinement, appelait en disant « Voilà, le fer à repasser est à l'endroit, l'eau de Javel est ailleurs, etc. Ouais. Et vous pouvez, et pour repasser, prenez-le, branchez-le, etc. » Donc, vous voyez, c'est pas possible. Tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et puis, on a besoin, pour la créativité, on a besoin de se rencontrer et de se parler. Et on en a déjà parlé. Moi, je maintiens que le télétravail de la maison est totalement contre-productif, crée du stress, crée des phénomènes de rejet. Nous, on a des collaborateurs qui ne sont pas venus pour des raisons de santé ou de stress ou autres, très peu, mais quand même, qui ne sont pas venus depuis 18 mois. Et là, ils développent des espèces de phobies. Ils sortent plus de chez eux. Les cours sont faits par les enfants, etc.
Ça touche plein de secteurs, c'est incroyable. Oui, mais...
Je pense que c'est beaucoup plus profond comme impact, comme formation, etc., qu'on ne l'imagine. Maintenant, il faut qu'on soit simple, pragmatique, et qu'on essaye de trouver des solutions raisonnables. Mes amis du Québec diraient qu'on ait du bon sens. C'est-à-dire qu'on puisse raisonner avec cette capacité de dire...
C'est clair.
Qu'est-ce qui est fonctionnel? Comment ça fonctionne? Ne pas créer des règles qui ne marchent pas pour tout le monde. Moi, je ne vais pas donner au comptable la même règle qu'au commercialisateur, la même règle qu'au gardien d'immeuble, etc., etc. Et de créer cette espèce de capacité de vivre ensemble qui doit être plus dans l'autonomie, dans la compréhension.
Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, par comparaison avec celles que vous dirigez, sont-elles outillées aujourd'hui en termes de modèle de gouvernance, de modèle de management pour absorber finalement ou impacter ce nouvel usage? Est-ce qu'on pourrait dire que cet usage, Birgis, est aussi une forme, une nouvelle... Vous savez, j'utilise souvent ce terme quand on parle ensemble, de nouvelle anthropologie urbaine, vous savez, une espèce de phénoménologie finalement assez sociologique qui impacte les usages bien profondément. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est bien plus profond que ça. Comment vous le traduisez?
Non, je confirme, enfin, c'est aussi la perception que j'en ai. On a vraiment un rapport de la société, de chaque individu, à la ville, à l'organisation du travail, à l'organisation de la vie en commun en général, qui est en train de se réinventer, de se redéfinir.
Une nouvelle forme urbaine, vous êtes d'accord?
Une nouvelle forme urbaine dont, voilà, pareil, on commence à avoir l'intuition de certains déterminants. On a parlé de ville du quart d'heure.
Déterminant.
Cette crise a aussi servi, avant de nous faire avoir des idées radicalement
nouvelles,
a aussi servi à révéler des choses dont on se rend compte aujourd'hui qu'elles sont inacceptables. Que ce soit les inégalités ou la dureté des conditions de déplacement entre domicile et travail qu'on avait avant la crise, que certaines catégories de la population devaient subir, que ce soit le sort des fameux premiers de cordée, que ce soit le sort des femmes, des jeunes, enfin tout un tas de catégories, soit géographiques, soit sociales de la population, dont tout le monde s'est rendu compte que leurs conditions de vie étaient inacceptables et qui, de plus en plus, quand ils le peuvent, le refusent. Parce qu'on n'a pas eu d'exode massif de départ de Paris en province, comme
on
l'a pu l'imaginer.
Ce qu'on appelle l'exode urbain, il n'a pas eu lieu.
Il n'a pas eu lieu massivement, mais il a eu lieu un petit peu quand même. Mm-hmm. Et d'autre part, il a ébranlé, il a un peu déstabilisé le pacte de confiance ou le pacte moral qui pouvait unir, par exemple, un employeur et ses salariés, ou par exemple, un maire et ses concitoyens.
Oui, vous voulez ajouter,
Michael? Oui, moi je voulais rajouter deux choses. L'idée de dire on va télétravailler, donc je vais rester dans la maison de famille de mes beaux-parents ou la mienne d'ailleurs, et puis je vais travailler à distance, posera le problème de la paupérisation au bout d'un certain temps. Parce que pourquoi on paierait le même salaire qu'à Paris? Pourquoi on ne paierait pas quelqu'un, j'en sais rien, à Alger ou ailleurs pour faire la même chose? Si on peut le faire à distance, on peut le faire d'ailleurs. Donc ça,
c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est déjà le cas pour pas mal d'entreprises qui sous-traitent par exemple des fonctions informatiques à Marrakech, par exemple, sur des plateformes d'appel, ou de la comptabilité à Delhi ou à Bombay, par exemple.
Ça va accélérer ce phénomène-là. Donc attention de ne pas... Vous savez, c'est comme le début de l'OMC. Quand l'OMC a été créé et qu'on a dit, voilà, on va ouvrir le commerce mondial. Et donc, on pourra avoir des prix beaucoup moins chers. Moi, je me souviens, la grande théorie, c'était de dire à nous, en Europe, vous allez voir, avec vos salaires d'Européens, vous allez pouvoir acheter deux fois plus de choses, je sais pas, trois jeans au lieu de deux, à supposer qu'on ait besoin de trois jeans en même temps, et vous allez pouvoir partir en vacances, etc. Et ça a marché pendant un certain temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a désindustrialisé, on a créé le chômage, et on a perdu des savoir-faire qu'on a déplacés. Et donc, ça entraîne en plus des impacts environnementaux, notamment en termes de carbone, terrible, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des déplacements, etc. Donc parfois, les bonnes idées, on a l'impression que c'est très bien, la maison de campagne, le machin, le truc, ça peut être contre-productif dans l'autre sens. Le deuxième sujet, c'est comment voulez-vous manager des gens qui sont obligés tous les matins d'être gardien d'immeuble, de faire le ménage, de commercialiser, j'en sais rien, d'être vendeur, etc., d'être sur le terrain. Et vous, vous n'êtes pas là ? Nous avons vu d'ailleurs pendant le premier confinement, on avait des stagiaires, les maîtres des stages n'étaient jamais là. Mais comment voulez-vous accompagner les gens ? C'est pour ça que je parle d'équité et pas forcément d'égalité. L'égalité de traitement n'est pas forcément quelque chose qui entraîne une équité de respect des uns et des autres.
Ingrid ? Réaction
Oui, mais je suis tout à fait
allô,
d'accord.
Ingrid.
Ingrid, elle est très perturbée par les bruits extérieurs, donc Ingrid vient de se mettre.
Mais ça nous met dans
casque.
Une. Voilà, c'est pour ça qu'on se met dans une bulle avec le casque.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je reviens dans la bulle.
Ça va, Ingrid,
oui, tout va bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Meka, et notamment dans le cahier, il y a également un intervenant qui est universitaire qui s'appelle Dominique Turc, qui parle justement de la possibilité de la fin du salariat et de ces problèmes justement qui lient au télétravail. On peut dire, là on peut télétravailler, donc externaliser des fonctions administratives. Et ça peut être en effet, après l'externalisation des fonctions industrielles, des fonctions tertiaires.
Est-ce que ça peut changer la face d'une ville ? Est-ce que ça peut. Alors j'exagère
alors,
peut-être un peu.
C'est pas l'objet du cahier là.
Ça ne peut qu'enrichir et l'édition va très bien fonctionner puisqu'on va la mettre en ligne. Donc, pas de souci. Alors oui, est-ce que ça peut effectivement avoir impacté, changé la nature d'un quartier ?
Bon, on l'a vu avec Paris, l'évolution démographique de Paris, l'évolution des classes sociales dans Paris. On a bien vu que Paris, c'est même si aujourd'hui la politique de la mairie de Paris, c'est de faire revenir des personnes avec des revenus modestes, on a bien vu...
Et de changer les bureaux en logement,
une gentrification de territoire. Donc voilà, donc bien évidemment, ça peut changer quelque chose. Mais si on revient au quartier d'affaires, je ne sais pas si peut-être la question était à poser à Pierre Lys.
Non, je ne sais pas si ça changera la forme des villes, elle est déterminée par beaucoup d'autres
choses.
La forme des villes, en même temps, toujours tout au long de l'histoire, était déterminée notamment par des questions hygiénistes, sanitaires. Enfin, c'est pas nouveau, les épidémies ont fait la forme des villes.
Ah ben oui, voilà. Absolument.
Le Paris haussmannien, ça s'explique d'abord par des raisons sanitaires.
Absolument.
Et peut-être qu'il en sortira autre chose à l'avenir. Après, voilà,
assèchement des marais, notamment la Bièvre, par exemple, qui a été
découverte.
Mais là,
on parlait de l'externalisation des fonctions administratives à l'étranger.
Oui,
on parle de plusieurs choses à la fois. Mais voilà, on est en train de vous.
C'est le but de la radio.
Pour résumer, exactement. C'est l'avantage de réinventer un certain nombre de composantes du paradigme urbain à la fois, et on apprend en faisant. Il y a des choses qu'on est en train de tester.
Pierre-Yves, quand vous écoutez Meka Brunner qui vous dit attention, quand vous avez parlé de l'analogie OMZ, c'est vrai ce qui se passe. C'est-à-dire que cette tentation du digital, en fait, elle abroge les frontières. Mais elle abroge pas que les frontières. Elle abroge aussi le système de régulation qui contrôle le travail, les règles éthique, les règles déontologiques, on est d'accord là-dessus. Parce que je vais vous donner juste un chiffre, voilà. Le prérequis, par exemple, entre. Alors en plus, c'est des villes que je connais bien, j'en viens. Entre Casablanca et Marrakech, vous avez un prérequis à peu près à Bac plus 5, avec des personnes qui travaillent en moyenne 45 heures par semaine pour un salaire de base de 435 euros.
Ouais.
Ah, y a pas poteau. Le webmastering est complètement externalisé là-bas. En plus, ils ont une connectivité qui est remarquable, ce qui fait qu'on a des plateformes d'appel, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, dans ces villes, par rapport aux services ? Est-ce que quelque part, je vais préciser, le fait de conserver le quartier d'affaires avec l'existence de sièges, de bureaux, n'ancre-t-elle pas aussi le fait que, dans un pays comme le nôtre, on arrive à contrôler et avoir un système de régulation qui nous empêche de faire n'importe quoi ? Je ne sais pas si je suis suffisamment...
Si. Après, c'est vrai que ça nous montre effectivement cette histoire de mondialisation et de régulation en général des échanges de matières et de biens et de personnes. Cette crise nous a montré qu'on touchait aux limites de ce modèle et qu'effectivement, le poursuivre avec en plus les nouvelles possibilités techniques et organisationnelles, notamment du télétravail, pouvait nous emmener dans une impasse sociale très grave. Donc c'est aussi une responsabilité. Moi, je suis évidemment parfaitement d'accord avec ça. C'est une responsabilité de tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre à la fabrique de la ville, à la fabrique de l'immobilier, de la vie en société, d'intégrer cette dimension dans un coin de leur tête. On se bat aussi, indépendamment de la vie qu'on peut avoir, qu'on soit de gauche, de droite, pour ou contre la mondialisation. Mais on doit se battre aussi pour que la vie en société continue de pouvoir exister, continue d'avoir un sens. Et effectivement, qu'on n'ait pas une partie entière de nos chaînes de production, de nos sociétés, qui se retrouve au Pakistan.
Vous avez absolument raison.
Je voudrais même rajouter quelque chose, parce que c'est
fondamental
ce que vous dites. Nous, l'enquête nous le montre également, et je pense qu'elle a fait pas mal écho dans la presse, c'est que tout le monde ne veut pas être en télétravail. Parce que là, on parle du télétravail comme si c'était acté. Tout le monde ne veut pas aller en télétravail, et notamment, donc, si on parle des CSP moins, ce qui peut être externalisé, on a dit, dans des pays où le coût du travail est moins cher, clairement, n'ont pas envie tous de télétravail. Donc ça, c'est très important. Les employés de bureau n'ont pas forcément envie de télétravail. Oui. Ils ont envie de revenir au bureau. Ça, c'est très important.
Et moi, je voulais rajouter autre chose. En fait, la délocalisation va être beaucoup plus compliquée que ça, parce qu'on va remplacer ces métiers administratifs par des machines. Je vous prends un exemple. On m'a volé mon portefeuille au début des vacances. Je ne vous raconte pas ma vie. Je suis allée, dont ma carte vitale. Je suis allée sur le site d'Amélie.
Pickpocket ?
Je suis allée sur le site d'Amélie. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour commander une nouvelle carte vitale ?
3 minutes.
10, parce que je suis une personne âgée, donc ça prend plus de temps. Voilà.
Je ne vois pas.
10 minutes et c'était livré 15 jours après, et encore, c'est parce que j'étais pas là, etc.
Ouais. Au niveau administratif, c'est remarquable.
Écoutez, avant, ça prenait un temps fou, il fallait y aller.
Il fallait déplacer, bien sûr.
Mais tous ces gens. Alors, nous avons une responsabilité complémentaire. Parce qu'on ne peut pas jeter les gens en disant, voilà, on va les remplacer par la machine.
Mais on peut avoir une vision un peu schumpeterienne, quelque part.
Exactement. Et il faut qu'on les forme, qu'on les accompagne. Pour moi, cette ville du futur est basée sur 3 principes. Sur la science, et vous avez raison, on a connu des épidémies tout le temps et on a tout le temps fait des choses pour lutter contre les marées, tout ce qu'on a fait, ça allait dans ce sens-là. La science qui va devenir très importante, la science dans toute sa dimension. La deuxième chose, c'est la technologie au service de ce qu'on veut faire. Et la troisième chose, c'est l'humain. L'humain plus que jamais. Il faut qu'on travaille sur la formation.
C'est chronologique ou c'est au même niveau ?
Non, c'est au même niveau parce que ça se mène en même temps.
Et on ne peut
pas, dire, je vais faire ça, puis après ça, puis après ça. Il faut les mener de front parce que sinon, on va laisser beaucoup de gens sur le bord du chemin. Et on n'a pas le droit parce qu'on passe à côté de talents, de compétences. Il faut qu'on continue à évaluer ce que les gens font, qu'on leur développe leurs talents, qu'on continue à les intégrer. Ça devient un sujet important d'intégration. Et la ville de demain sera agréable quand on aura répondu à tous ces sujets-là, quand chacun aura pas simplement une occupation rémunérée, mais un vrai travail qui donne fierté et dignité. Et ça, ça donne une capacité de faire, et pas 45 heures par semaine. On peut travailler dans des conditions agréables sans être obligé d'être en asservissement. On a vu que le télétravail, et notamment le travail à distance, on n'arrivait pas à se déconnecter.
On voit bien que le problème du digital peut se régler par une simple volonté politique, mais qui est une volonté politique coercitive. Un exemple, la Chine l'a fait. On n'entre pas digitalement en Chine.
Effectivement, mais en contrepartie d'une propagande et d'un lavage de cerveau.
Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue coercitif, c'est-à-dire que la Chine, qui n'est pas un État démocratique, a dit, et d'ailleurs les BATX aujourd'hui ont une position dominante en Chine, on voit bien que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le télétravail, avec un peu d'impulsion politique, pourrait être aussi contrôlé, puisqu'il y va aussi de la sauvegarde d'un modèle social.
D'une souveraineté économique,
Souveraineté économique et numérique. On pourrait y ajouter. Vous y croyez, Pierre-Yves, à la réversibilité des bâtiments ? Est-ce que l'empreinte foncière de l'immeuble de bureau pourrait-elle demain devenir un centre de loisirs à la Défense, par exemple, de l'hôtellerie, de l'hospitalité. Aujourd'hui, c'est la mode, on fait de l'hospitality.
Pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, un des défis, on parlait de la fabrique de la ville, donc de garder les talents, de garder une structure sociale plus généralement sur place et de lutter contre leur éclatement. Un des défis auxquels on va être confronté, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait une valeur ajoutée à faire travailler des gens ensemble dans des lieux de travail, plutôt soit que de les laisser en télétravail chez eux, soit de les délocaliser, on ne sait où. Et une des manières de créer cette valeur ajoutée, c'est effectivement de réunir les conditions qui permettent de mener une vie meilleure d'une certaine manière, avec davantage d'opportunités de se réaliser, de s'épanouir, d'apprendre des choses, de rencontrer des gens, que si on était chez soi ou si on était délocalisé, encore une fois, à l'étranger. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça pose de manière centrale pour un quartier comme la Défense, mais c'est pas le seul, la question de cette diversité des fonctions, de diversité des choses tout simplement qu'on peut faire en étant à un endroit donné, à un moment donné. Le fait, je pense que cette crise, parmi d'autres conséquences, signera, il faut le souhaiter en tout cas, l'arrêt de mort de ce qu'on a appelé le zoning, et sans parler de quartiers un peu hors normes comme la Défense, mais le fait de faire des zones d'activité, des zones d'entrepôt, des zones de logement.
La vie aujourd'hui sur le plateau, de toute façon, on vit les dernières heures du zonage, Et voilà,
ça fait depuis le premier choc pétrolier que les ministres du logement et de l'équipement disent qu'on vit la fin du zonage. Et c'est pas à faute d'essayer, je veux dire.
C'est très bon. Bravo.
Mais il faut vraiment souhaiter qu'on passe au-delà de ça, parce que sinon, effectivement, ça va finir par nous éclater entre les doigts. Mmh. Il faut vraiment qu'on arrive à créer des quartiers de ville, des environnements urbains qui permettent de créer ces conditions, de s'élever, de faire corps, de faire société ensemble. Et ça renvoie notamment, pour parler de la réversibilité des bâtiments, ça peut être des constructions neuves, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, le fait d'avoir cette fameuse ville du quart d'heure, d'avoir de l'hébergement, du travail, de la culture, du sport, de l'enseignement supérieur au même endroit, ça sera plus que jamais déterminant, notamment dans les quartiers d'affaires.
On trouve cette approche dans les cahiers, cette 8e édition.
On trouve cette approche et notamment cette comparaison internationale entre la ville nord-américaine, qu'elle soit à Montréal ou à Boston, et la ville européenne, et la ville notamment aussi du Moyen-Orient. Donc avec le cas de Dubaï. Oui, on trouve cette approche. On voit qu'il y a des différences, bien sûr, sensibles. Et concernant le télétravail, mais ce n'était pas non plus que l'objet du cahier.
Oui, oui, bien
mais
sûr.
On voit bien que dans les pays asiatiques, au Singapour, notamment, ou Hong Kong, la question ne se pose même plus. Donc il faut aussi en prendre compte et accueillir en fait ceux qui veulent retourner au bureau.
Alors on parlait du télétravail. Alors, nous, on a fait une étude là-dessus. D'ailleurs, dont une partie des résultats, on ne les a pas publiés. On n'a pas voulu le publier parce que c'était franchement assez étonnant. Et c'est un peu les limites de l'exercice dans un média thématique. On a une espèce d'idée qui est, vous savez, la maison semi-principale. Vous avez entendu parler de ce truc ? La maison semi-principale.
Oui, c'est quand vous êtes deux jours par semaine
au début, je suis
dans votre maison.
Vous savez, moi, je suis un peu à l'ancienne, vous savez, avec moi aussi un âge certain. Et pour moi, s'il y a la résidence principale, et puis vous avez la résidence en compte. Semi-principal. J'ai pas compris tout de suite quand même, comme un nouvel usage. Et on s'est dit, on a fait une étude pour savoir, parce que pour avoir une maison semi-principale, il faut quand même avoir un certain revenu. Parce que tout le monde, pour être très clair, tout le monde n'a pas une résidence principale propriétaire, et tout le monde n'est pas propriétaire d'une résidence secondaire. Soyons très clairs, on vit pas à Disneyland aujourd'hui. Et on s'était dit la chose suivante, on s'était dit, finalement, on va interroger les gens sur est-ce que vous saviez où vous habitiez ? Ça va loin. Eh bien, les deux tiers nous ont répondu, on a fait connaissance avec notre habitat à cause du confinement. Ils y vivent depuis plusieurs années. C'est très intéressant, cette réponse à la question, c'est-à-dire qu'en fait, on a compris. Et ça m'a fait penser à ça tout à l'heure quand vous parliez de cette femme de ménage qui téléphonait, finalement. Parce qu'en fait, les gens, ils ne faisaient pas leur ménage à la maison. Ils ne vivaient pas réellement chez eux. Quand ils se sont retrouvés avec les deux mômes en bas âge, parce qu'il n'y avait pas de balcon, parce qu'on voulait être dans un quartier super top, où le taux d'effort était quand même pas... On a fait même quelques micro-trottes comme ça dans des quartiers comme l'Odéon, par exemple. On ne peut pas dire que c'est un quartier pauvre, l'Odéon, dans le 6e. Et on a eu des réponses vraiment surprenantes. Et il y a trois choses qui sont ressorties. De l'espace, la promiscuité qui est liée à l'espace, le stress qui est lié à l'espace, le trouble qui est lié à l'espace, alors le fait de se retrouver avec... son conjoint, sa conjointe, etc. D'ailleurs, il y a eu le taux de séparation quand même beaucoup monté. Le taux de naissance aussi, je ne sais pas si... Comme quoi, il n'y a pas que des désagréments au confinement. La deuxième, c'est l'air. On nous a posé l'air. Et l'air intérieur. C'est incroyable qu'il y avait des gens qui savent ce que ça veut dire, un air intérieur. Parce que... Et le vert. Le vert, symbole de verticule, de verdissement, de nature. Je me sens... c'est les îlots de chaleur créés par du béton, etc. On parle d'îlots fraîcheurs, on parle de fraîcheur. Ça vous surprend quand on a ces résultats ? Parce que nous, il y a des résultats, ils nous ont vraiment surpris. Des gens qui vivaient depuis plusieurs années en se disant, on veut autre chose. Des injonctions faites même à leur employeur en disant, nous, on va essayer de trouver, de vivre différemment.
Moi, ça ne me surprend pas parce que, en fait, notre organisation, c'était d'avoir des logements qui étaient des logements... fonctionnel et qui nous permettait, on n'avait pas de problème d'espace extérieur avec les enfants puisque les enfants étaient dans un club, dans un machin, dans le square, dans le truc, etc. Donc c'est la question ne se posait pas.
Voilà, 1h30 pour aller au boulot, on rentre à la maison, partout le matin, on rentre le soir, le week-end on sort un peu.
Pour tout vous dire, moi aussi j'ai découvert mon chez-moi et je me suis rendu compte que c'est absolument pas fait pour le télétravail et que les fauteuils sont absolument inconfortables, la table n'est pas faite pour ça. Comme on était deux à télétravailler, mon mari a pris le bureau, donc moi j'étais dans la cuisine, la table de salle à manger, etc. Et en plus, comme c'est moi qui ai acheté les mobiliers, je ne pouvais même pas blâmer la personne qui les avait. Donc, vous voyez, c'est une grosse découverte.
C'est bon ça.
Ça peut être, C'est peut-être une raison pour laquelle je suis contre le télétravail de la maison. Donc ouais, mais je suis pas étonnée puisque on ne vivait pas chez soi. En fait, quand on a habité les villes, on était rarement chez soi.
En fait, on comprend l'impact que ça peut avoir. Un peu cette apogée urbaine où en fait on est sur cet élément. Alors il est l'heure de nous quitter bientôt. On va conclure. Vous voulez ajouter notre amie Ingrid? Oui.
Eh bien écoutez, retrouvez le cahier demain matin en ligne sur le site de la chaire, donc essec-immobilier.com, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et
est-ce qu'il est il est payant? On peut l'acheter? Il est gratuit?
Non,
on peut le télécharger.
Il est gratuit.
Il est
figurez-vous.
Gratuit. Ouais, c'est génial.
Il est gratuit depuis la 9e année. Il est gratuit.
Voilà,
puis parce et on doit remercier d'ailleurs les mécènes de la chaire.
Il est gratuit parce qu'il y a des mécènes.
Exactement.
Qui permettent l'accès à cette connaissance.
Voilà. Donc on parlait du modèle économique, mais en effet, donc c'est important ça. C'est du mécénat
et de
permet
et de remercier les sponsors, les
exactement,
mécènes. Exactement.
Qu'on retrouvera au dos de la jaquette. Donc il y a 8 partenaires qui ont sponsorisé ce cahier, dont on retrouvera les avant-propos.
Ok, on peut les citer.
Et qui permettent également de... Je ne vais pas en oublier, et c'est pour
d'accord.
ça.
D'accord. Alors, ils sont sur la liste.
Ils sont sur la liste.
Évidemment.
Je remercie également le partenariat avec Rhythm Idem et le MIPIM, qui permet depuis la 8e année de pouvoir présenter ce cahier. Et voilà, tout est dit.
Voilà.
Et il est en anglais également.
Voilà, il est en anglais. Et puis on retrouve aussi vos émissions, hein. Vous avez repris la saison.
Et je voulais quand même remercier aussi toute l'équipe qui a travaillé sur ce cahier. Donc ça, on verra également tous les noms. Et notamment Margot Beauchamp qui m'a beaucoup aidé à pouvoir réceptionner toutes les interviews, réécrire les interviews, etc. Donc merci également à toute l'équipe.
Alors quand est-ce, quand est-ce qu'on fait un numéro avec un piano à queue,
un
morceau.
C'est une autre histoire.
Voilà, un morceau en direct à la radio, parce que vous êtes soliste maintenant, connu, et vous produisez un peu partout. Hein.
Voilà, oui, le
c'est... Bon, je vous lâcherai pas là-dessus, vous le savez, hein, on va y arriver. Comme quoi, ceux qui font de l'immobilier, Pierre-Yves, ont un incroyable talent.
Oui.
Voilà, tous.
Voilà.
Et si la conjoncture actuelle avait une vertu, hein, c'est que notre arrogance en a pris un sacré coup. Donc, humilité, remercions le ciel de tous être présents et être vivants, parce qu'on connaît ici des personnes qui l'étaient il y a un an et demi, qui ne le sont plus aujourd'hui. Voilà. C'est à eux que je pense aujourd'hui. Et si vous me permettez, je peux faire un petit clin d'œil, parce que je n'ai pas fait beaucoup d'émissions aujourd'hui. Je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui a accompagné mon enfance, toute ma vie. C'était Jean-Paul Belmondo, qui est né en 1933, qui est décédé à l'âge de 88 ans. Et je me souviens de 3 films voilà, qui m'ont marqué. Le premier, c'est bien évidemment À bout de souffle, pour moi, qui a été le remarquable. Le magnifique, qui m'a fait rêver, avec Jacqueline Bisset, et qui était exceptionnelle dans ce rôle, qui était superbe. Et L'inconnu dans la maison. Voilà.
Et Peur sur la ville, quand même, si on veut rester dans le monde de l'urbain.
Et Peur sur la ville, et bien sûr, toutes les grandes répliques. Voilà, je m'étais promis de le faire aujourd'hui avec mon directeur adjoint qui est de l'autre côté. Voilà, un hommage à Jean-Paul Belmondo. Je vous promets, les amis, même si on a un média thématique, parce que c'est pas parce qu'on fait l'immobilier, hein, mais qu'on se préoccupe pas de la culture, qu'on s'amuse pas, qu'on mange bien, qu'on sort, etc. On est aussi des êtres humains, on fabrique la ville, certes, mais on est des êtres humains. On parle plein de choses, même de philo, d'ailleurs, aussi, c'est toujours intéressant. Je vous promets qu'on fera un numéro spécial pour Jean-Paul Belmondo. On prendra un truc, on fera des sons, des enregistrements. Voilà, je voulais simplement lui dédier, si vous le permettez, ma chère Ingrid, cette table ronde. Je rappelle que Pierre-Yves Guisse, vous êtes le directeur général de Paris La Défense. Merci d'être passé par le plateau de Radio Immo. Vous êtes le bienvenu. Revenez nous voir. On viendra aussi vous voir pour parler de tout ce que vous faites. Merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde.
Merci de votre accueil et de la qualité de l'ambiance, y compris de la température du plateau qui était idéale.
Merci. J'ai un peu souffert en vous voyant parce que je me suis dit, voilà.
Non, vous voyez, plus le temps passe, là, entre 8 et 18h, c'est parfait. Là,
Avant, on ira boire une bonne bière ensemble avec grand, grand plaisir. Voilà, Méca Brunel, toujours un plaisir de vous croiser. Vous êtes magnifique sur le plateau.
De partager
toutes ces idées. Voilà, ça crée une grande émulation. Méca Brunel, directrice générale de Gessina et bien sûr l'incontournable Ingrid Napi, professeur titulaire de la chaire Immobilier et Développement Durable à l'ESSEC. Voilà.
Merci,
les solistes de piano.
Oui, c'est ça.
Magnifique.
Très bien.
Merci à tous. Restez connectés.
Merci.
Pas fini. Le MIPIM, on se voit tout à l'heure. Et on enchaîne, bien sûr, jusqu'à demain. Salut, les amis.
MIPIM 2021, Time to Reconnect, les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.